Donc, chapitre 4. En fait, on finit, je sais pas, suivant les traductions que vous avez, c'est à la fin du chapitre 3 ou c'est le début du chapitre 4. Il y a des petites différences suivant les traductions sur la division ici, sur le début de l'histoire, en fait. Donc, je crois que dans la plupart des traductions françaises, c'est la fin du chapitre 3. On va commencer, comme pour l'autre passage, peut-être en lisant des passages dans le Nouveau Testament, dans Romains. Romains 2, 4 et 5. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Donc il y a ce passage-là, et il y a aussi 2 Pierre 3, verset 9, qui nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc ça nous donne un petit peu le contexte du récit qu'on va regarder maintenant. Commençons à lire, si vous avez trouvé. Ça va ? Pardon, 2 Pierre 3, 9. Donc, dans le livre de Daniel, pour revenir à notre récit, le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue, habitant tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est trop difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines, attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné, puis 7 temps passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs, cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître, toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Et donc, on a ici un des récits les plus, peut-être les plus intrigants, les plus incroyables de toute la Bible, avec cette déclaration faite par le roi Nebuchadnezzar à tout son peuple. Et on va voir que c'est l'histoire de comment Dieu va changer le cœur de ce roi païen Et ce que fait ici Nebuchadnezzar, c'est une très bonne illustration que ce que c'est que d'être un témoin, que de rendre témoignage de Jésus ou de Dieu. En fait, ici, ce qu'il va faire, c'est donner son témoignage. Et c'est un bon exemple, encore une fois, pour nous. Il a pensé qu'il était bon de déclarer ce que Dieu avait fait pour lui, et c'est bon pour nous aussi, c'est une bonne chose pour nous aussi de déclarer ce que Dieu a fait pour nous. Et il reconnaît aussi que le royaume de Dieu est supérieur à son royaume. Il accepte en quelque sorte, enfin ici, ce qu'il avait refusé, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, ce que Dieu lui avait pourtant annoncé. Et on a ici, alors il y a quelques critiques qui disent que les passages ici et certaines des expressions utilisées ne sont pas quelque chose que Nebuchadnezzar aurait pu connaître, mais si on pense que Daniel était parmi ses conseillers et lui a peut-être donné des conseils ou des explications pour l'aider à écrire cet édit qui allait être lu et annoncé à tout son peuple, ce n'est pas du tout un problème. Notamment, par exemple, ici ce qu'on voit au début du passage quand il parle de Dieu et qu'il dit que ses signes sont grands, que ses miracles sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les psaumes, qu'on retrouve dans d'autres passages de la Bible et plus loin dans Daniel aussi. Et donc Nebuchadnezzar est tranquille chez lui, il se croit en paix et en sécurité. Il croit être supérieur à tous les problèmes ou toutes les situations qui peuvent lui arriver. Mais c'est une fausse sécurité. Et Dieu va le faire sortir de cette paix, de cette sécurité. Et c'est encore une fois par un rêve. Et donc il fait un rêve bizarre qui le perturbe et qui l'effraie. Il n'est pas sûr de ce que ça signifie, mais il sent qu'il y a quelque chose il y a quelque chose dans ce rêve qui le gêne. Et cette fois-ci, plutôt que de d'être très exigeant et de poser des conditions, il raconte son rêve à ses conseillers, ses sages, en leur demandant une explication. Et on voit ici qu'en fait, il va chercher Daniel qu'une fois que les autres ont échoué ou n'ont pas donné satisfaction. C'est un petit peu, on se demande pourquoi, puisque Daniel était tellement, on va dire, solide pour lui expliquer les rêves. On se dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé directement à Daniel plutôt que de passer par cette étape-là. Alors peut-être que peut-être que Daniel étant le chef de tous ces sages et de tous ces hommes qui étaient des conseillers, il y a certains commentateurs qui pensent que c'était peut-être le protocole qui voulait qu'on appelait d'abord un peu les sous-fifres, et puis si ça allait pas, alors on dérangeait le chef des différentes, on va dire, parties du gouvernement de Nebuchadnezzar. Quoi qu'il en soit, il appelle Daniel après l'échec des autres méthodes. Et ici, ça peut nous interpeller par rapport à nous et par rapport à comment on réagit vis-à-vis de situations difficiles. Est-ce qu'on va d'abord à Dieu ou sa parole ou à des frères et sœurs pour demander de la prière, ou est-ce qu'on essaie de trouver d'autres moyens, d'autres forces, est-ce qu'on s'appuie sur d'autres choses, et est-ce qu'on va finalement voir Dieu qu'une fois que toutes les autres choses n'ont pas donné satisfaction. Et en fait, on a l'impression qu'en quelque sorte il fait encore confiance à ses dieux. On voit que même dans la manière dont il raconte les choses, on n'a pas l'impression qu'il parle d'un Dieu très haut. Au début, oui, mais lorsqu'il parle de Daniel et du fait qu'il a en lui l'esprit des dieux, qu'il fait référence à Daniel avec le nom qui était un nom qui devait rendre gloire au dieu Bel, qui était le dieu des Babyloniens. Il y a un petit peu un sentiment qu'il est, encore une fois, il n'a pas vraiment accepté Dieu, malgré tout ce qu'il savait de Daniel et tout ce qu'il avait vu et tout ce dont il avait vu. Enfin, tout ce qu'il avait vécu déjà avec Dieu. Et il raconte son rêve. Et dans son rêve, il y a un arbre qui est incroyable de force, qui est de taille, de beauté. On voit qui est extrêmement grand, qui s'étend sur... la cime touche le ciel, qui couvre toutes les extrémités de la terre, qui est beau, qui a des fruits abondants, qui porte de la nourriture pour tout le monde. Toutes les bêtes, tous les animaux peuvent venir sous cette arme pour leur subsistance, pour leur existence. Mais, alors verset 10 dans mon passage ici, il voit un veilleur, un saint. Et ça, en fait, c'est des mots qui étaient utilisés dans, dans le langage de l'époque pour décrire un ange. Et donc, c'est un ange qui vient annoncer, un héros qui vient annoncer la destruction de cet arbre, qui annonce que cet arbre va être coupé jusqu'à la racine, que les racines vont rester dans la terre, mais que l'arbre va être attaché. Et on voit verset 13 qu'en fait l'arbre représente un homme qui a un cœur d'homme, mais dont le cœur d'homme va être enlevé et qui va recevoir un cœur de bête, puis que 7 ans vont passer. On ne sait pas si c'est 7 années ou si c'est symbolique pour signifier une période complète dans la Bible. 7, c'est un nombre qui représente la complétude, la complétion de la volonté de Dieu. Donc c'est en quelque sorte jusqu'au temps décidé par Dieu, pendant une période décidée par Dieu, et pendant ce temps décidé par Dieu, il va avoir ce cœur de bête. Et donc cette parole est une décision qui est ferme et qui est là. C'est intéressant de voir parce qu'il Nebuchadnezzar demande à tous ses sages de venir, et pourtant on a l'impression qu'il a déjà reçu l'explication de la part de l'ange, parce que l'ange lui dit: cette parole est un décret des veilleurs, cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. C'est déjà annoncé par l'ange que c'est Dieu qui veut montrer que c'est lui qui est souverain, que c'est lui qui domine même sur les rois, aussi grands qu'ils soient. Et Nebuchadnezzar aurait pu prendre ça assez... Enfin, je ne vois pas comment il n'a pas... Peut-être qu'il espérait qu'il y ait une autre explication et que c'est pour ça qu'il appelle ses sages. Peut-être que ses sages n'ont pas voulu lui donner d'explication parce qu'ils se disaient: on ne voit que du négatif là-dedans, je ne vois pas comment le tourner pour que ce soit quelque chose de bon pour toi. Et on va voir la réaction de Daniel. Mais c'est intéressant parce qu'il fait quand même venir Daniel, il veut savoir exactement ce que ça veut dire. Et donc, enfin, il s'agit vraiment clairement d'un problème d'humilité et de soumission à Dieu. Je trouvais intéressant, ça m'a fait penser au psaume 1, quand il est dit que l'homme qui médite la parole de Dieu va être comme un arbre dont le feuillage ne va pas se flétrir, qui va être solide. Et souvent dans la Bible, après, en fait, en cherchant, il y a énormément de passages où l'arbre est utilisé quelque chose pour représenter des hommes de grande importance, des rois qui d'une certaine manière donnent sont solides et donnent comme c'est décrit ici la subsistance aux êtres qui sont autour d'eux. Mais c'est encourageant de voir que en quelque sorte Dieu veut nous donner ces places d'importance et il nous considère comme importants Il va nous donner de l'importance si on médite sa parole, si on vient à lui pour l'obéir. Et il veut aussi faire de nous des arbres, de grands arbres, en le recherchant et en s'attachant à sa parole. Lisons la réponse de Daniel. Verset 16. Alors Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit: Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belshazzar répondit: mon seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort, ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture pour, avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veille écouter mon conseil, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes, en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc on voit que Daniel, enfin le ressenti qu'on a, c'est que Daniel se souciait réellement du roi, et qu'il est troublé par le rêve et par l'application. On voit qu'il est terrifié et stupéfait par ses pensées. Alors peut-être qu'il avait peur de la réaction du roi, mais quand il lui dit ici que ce soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires, on a vraiment l'impression que Daniel ne veut pas que ce soit quelque chose qui s'applique au roi. Et notamment la suite, quand il va essayer de le conseiller, de l'exhorter à se détourner de ses voies pour changer, mais pour suivre les commandements de Dieu. En tout cas, Daniel hésite avant de lui répondre, mais sa réponse est sans appel et très directe, et Nebuchadnezzar, on peut penser, peut-être espérer que son rêve ne soit pas si peut-être littéral, en quelque sorte, peut-être il avait déjà compris comme tel, ou il avait déjà... Il se doutait de ce que Dieu était en train de lui dire, mais il espérait qu'il y ait une autre explication qui ne soit pas exactement ce qu'il avait compris. Et ça fait penser un petit peu à la réponse de Nathan à David dans 2 Samuel 12, quand Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi, David. » Quand il lui dit « Tu es cet homme. » Daniel ici lui dit « C'est toi, roi. » Et donc, il lui dit « Voilà, si tu... Tu te crois très fort, tu es un grand roi qui domine sur toute la terre, mais Dieu va te rabaisser pour montrer qui est vraiment souverain et va te rendre comme une vache en quelque sorte. Tu vas aller brouter l'herbe dans les champs et puis tu vas plus savoir ce qu'il en est jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est Dieu qui t'a mis dans la position d'autorité où tu es, que c'est grâce à Dieu que tout ce que tu as s'est accompli. Et c'est lui qui domine sur toi et pas toi qui domine sur lui et sur la terre. » Et Daniel lui dit, verset 24, « Veuille écouter mon conseil, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. » Donc Daniel l'exhorte à s'humilier, à se repentir, à arrêter de pécher et à faire la volonté de Dieu. Il lui dit, « Mets un terme à tes péchés, donc arrête ce que tu es en train de faire et pratique la justice. » Rends grâce aux plus humbles. Donc il n'y a pas juste une condamnation à lui dire ne fais pas ça, mais il y a quelque chose de positif où il lui dit voilà ce que tu dois faire. Et c'est aussi un exemple de comment nous devons peut-être nous comporter. Alors on va voir s'il y a des exhortations pour nous personnellement, mais aussi pour nous et comment on traite les gens dans l'église et dans nos paroles de... Si on voit des gens qui sont dans l'erreur ou dans le péché, de les exhorter avec compassion, avec amour, un petit peu avec grâce et patience. Les paroles de Daniel ici sont pleines de compassion. Il lui dit, j'aimerais vraiment que ce ne soit pas pour toi, j'aimerais que ce soit pour tes ennemis. Si tu te comportes comme ça, alors ça peut ne pas t'arriver. Il essaie de lui donner la porte de sortie. Il est vraiment... il n'est pas juste là à le condamner et lui à dire... C'est pas quelqu'un... il n'est pas juste venu à la cour du roi lui dire voilà, Dieu te condamne et c'est tout, tu vas finir comme une vache et voilà, tu, on va te détruire et tu seras anéanti. Il n'y a pas ce. Il aurait pu le venir et le. Aussi pour sa propre. Enfin, ça aurait peut-être. C'est toujours plus facile de condamner comme ça, vraiment sèchement, que de. Que de donner cette grâce et cette patience. C'est des choses que Paul nous dit, en tout cas dans le Nouveau Testament, que nous devons reprendre les gens avec compassion et amour et les exhorter à changer de voie quand on voit qu'ils sont dans une mauvaise direction. Et on va voir que ça se réalise, en fait, verset 25. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nébuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé par la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ?» À ce moment-là, la raison m'est revenue, la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, roi Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Et donc on voit que Dieu, il y a 12 mois encore de sursis, de patience. Et ça nous fait penser un petit peu à ce qu'on a lu dans 2 Pierre et dans Romains, cette idée que Dieu n'est pas... Le fait que les injustices et les choses sur la terre, les choses mauvaises qui se passent sur la terre n'est pas le signe que Dieu n'est pas souverain, on n'a pas la capacité d'agir, mais qu'au contraire, c'est à cause de sa patience et de son amour que ces choses-là ne sont pas corrigées, que ces choses-là ne reçoivent pas la condamnation et la rétribution qu'ils devraient recevoir. Mais même dans sa patience, il vient un jour où elle expire et où il applique la punition pour corriger, pour reprendre. Mais il y a un encouragement pour nous, dans Hébreux 12, que Dieu nous frappe et nous reprend et nous corrige, pas pour nous enterrer, mais pour nous restaurer, pour nous faire grandir. On peut s'y tourner, si vous voulez, dans Hébreux 12. Hébreux 12, 5 à 10. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous a adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que le Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Et on voit aussi que le travail de correction de Dieu est vraiment bon et parfait, que quand il corrige l'homme, il le restaure à une place qui est dans une condition qui est souvent meilleure. Si ce n'est pas des conditions externes, c'est au moins les conditions internes, parce qu'on a une relation avec Dieu qui en sort grandie. Il y a vraiment ce besoin d'humilité, de reconnaître notre place correcte vis-à-vis de Dieu. Et c'est en quelque sorte ce qu'il va exiger et attendre de Nebuchadnezzar ici. Donc on voit que 12 mois plus tard, Nebuchadnezzar a fait son rêve, il a eu l'explication. On ne sait pas, peut-être qu'il a un petit peu changé ses voies un petit peu, puis peut-être qu'il est revenu à ses anciennes voies, ou peut-être qu'il a juste il a fait fi complètement de ce que Daniel lui avait dit. Quoi qu'il en soit, il a eu 12 mois. Mais le roi se balade dans son palais royal et il s'éprend de lui-même, en quelque sorte. Il s'écrit une petite louange à lui-même en disant, n'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. C'est vraiment ça fait penser à à Saddam Hussein ou à Kim Jong-il en Corée du Nord, qui se fait construire des palais immenses. Ceausescu, Staline, qui se faisait renommer des villes à leur nom. C'est vraiment des... Et donc il est en train de regarder la ville et il se dit, mais je suis vraiment incroyablement grand, quoi. Regarde-moi ça, quoi. C'est vraiment fou. Mais c'est... Alors, enfin, on va parler un petit peu de Babylone la Grande, qui était une des villes les plus incroyables de l'Antiquité, avec notamment les jardins suspendus, qui étaient une des sept merveilles du monde, d'après les Grecs. Et ici, notamment, c'est quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure, mais Daniel attribue la construction de Babylone la Grande à Nebuchadnezzar, alors que les historiens et les gens, jusque dans les années 1900, ne pensait pas que c'était lui et pensait que à cet égard-là, Daniel était dans l'erreur. Et c'est quand il y a eu des fouilles sur les lieux, en fait, qui sont en Irak, à Babylone, qu'ils ont trouvé des preuves qui sont vraiment irréfutables sur le fait que Nebuchadnezzar, c'est celui qui a construit Babylone la Grande et qui est responsable des merveilles et des choses qui étaient présentes à Babylone la Grande. Ils ont trouvé quasiment toutes les briques, les grandes briques qui étaient utilisées pour construire les murs et les grands bâtiments, porter un sceau qui était inscrit, qui parle sans preuve, sans possibilité de réfutation du fait que c'était la construction du roi. Ça porte un sceau en fait royal qui dit Nebuchadnezzar, le fils de Nabucodonosor. Et qui donne un petit peu ses titres, et donc il n'y a vraiment pas de doute possible sur le fait que c'est lui qui était responsable. Il y a à Londres, au British Museum, des colonnes, il y a 6 colonnes qui portent des listes en chaldéen, il me semble, de tout ce que Nebuchadnezzar a construit et de ses œuvres en quelque sorte dans Babylone et de ses... Et donc l'archéologie, encore une fois, a confirmé plutôt qu'infirmé la Bible a posteriori, en montrant qu'en fait c'est lui qui était responsable de la construction de la construction de Babylone. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, juste pour vous donner quelques chiffres, pour vous donner une idée, je lisais ça, j'y croyais pas, j'étais un peu. Ils estiment, alors les archéologues estiment que les murailles faisaient à peu près 100 mètres de haut pour 24 mètres de large. 24 mètres de large, je ne sais pas si vous imaginez, ils pouvaient faire passer au-dessus des murailles de la ville, ils pouvaient faire passer 2 chariots avec 4 chevaux chacun. Enfin, c'était vraiment un truc. C'est la muraille de Chine est petite à côté, quoi. La muraille de Chine, elle fait pas le figure face à ce truc-là, quoi. Et ils estiment qu'il y avait à peu près 90 km de muraille. La surface La surface que l'enceinte, enfin de ce qu'entouraient les murailles, faisait 513 km². C'est plus grand que le département de la Seine. C'est 7 fois l'espace fortifié de l'ancien Paris. C'est immense. Ils avaient fait ça, ils avaient des parties tout entières où ils avaient des cultures, ils avaient le fleuve, l'Euphrate qui passait au milieu, ce qui permettait, en cas de siège, ils pouvaient être tranquilles, ils n'avaient aucun souci, ils étaient tranquilles à l'intérieur, ils pouvaient vivre en autarcie. Mais enfin, rien que ces chiffres-là, moi, ça me semble fou, quoi. À cette époque-là, on se dit, mais des 100 mètres de haut, quoi, je veux dire... C'est vraiment, vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. Et donc, on a presque envie de lui pardonner un Nebuchadnezzar par rapport aux petites maisons à 2 étages. Enfin, il n'y avait pas. C'était vraiment des bâtiments incroyables.
C'est à peu près à l'époque, combien d'étages,
par exemple ? Bah, 30 mètres, c'est 8 étages, je crois. C'est vraiment. Un étage, c'est quoi ? C'est 3 mètres ?
C'est comme une tour.
C'est 3 mètres, donc c'est genre 30. C'est dans 30. C'est des trucs, c'est incroyable, quoi. Et il y avait les jardins suspendus aussi, qui étaient une construction incroyable avec des.
C'est lui qui avait fait ça aussi.
Oui, alors ils pensent qu'il a construit ça en fait pour une de ses reines qui venait.
Combien ?
Ça, j'ai pas regardé, mais ce sont tous des choses qui viennent d'autres récits historiques, d'autres traces historiques. C'était vraiment une ville incroyable, quoi. Et on verra, rien que la superficie, quoi, on se dit, mais c'est fou, quoi. C'est vraiment un truc de dingue, quoi, de faire une ville aussi grande à cette époque-là. On a l'impression, quand on poste à cette époque-là, peut-être des petites fortes. Je veux dire, même quand on voit, par exemple, Louis XIV qui se croyait fou, qui a construit des petits châteaux de rien du tout à côté, c'est ridicule. Le Fort Carré, c'est minuscule à côté. Le Fort Carré ne fait même pas la taille... Enfin, fait à peine la largeur de la muraille de Babylone. C'était un truc de dingue, hein. C'était vraiment... je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. 100 mètres sur 24 mètres de large. 24 mètres de large, je ne sais pas, la profondeur jusqu'au fond du bâtiment, jusqu'ici, je ne sais même pas s'il y a, 20, y a quoi, il y a 20, 30 mètres.
25 mètres.
Ouais, voilà, ça fait, c'est comme si vous aviez une muraille, un truc qui fait de là à l'autre rue, qui faisait 100 mètres de haut, quoi.
Il y avait quoi à l'intérieur des murs ?
Sur 90 km, quoi. Enfin, vraiment, c'est.
C'était du béton ? Enfin, bref,
c'était des pierres. C'était des briques, des grandes constructions. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Quoi qu'il en soit, il se promène dans son palais et il se glorifie lui-même, il s'en va des fleurs et Dieu lui dit, bon, ça, je vais t'apprendre comment ça se passe réellement dans le monde, comment sont vraiment les choses, quelle est la vraie hiérarchie des choses. Et Dieu le rend fou et il se prend pour un bœuf pendant... Alors on estime, il y a cette histoire de cette période, alors on estime que c'était à peu près 7 ans. Et ce qui est vraiment intéressant, alors pour vous donner un petit peu, pour vous donner un petit peu des choses qui donnent un petit peu de réalité à ce récit, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est un peu un récit mythologique. C'est des choses qui ont été examinées cliniquement. Des gens, il y a une condition où les gens se prennent pour des animaux, et c'est déjà arrivé que les gens se prennent pour des bœufs et adoptent les comportements des animaux en question. C'est des choses qui ont été examinées cliniquement par des psychologues, des psychanalystes. Donc, c'est pas quelque chose de hors du. Et il y a une trace de cette histoire dans des récits historiques d'un certain Abidénus, qui était un historien grec qui a écrit 300 ans avant Jésus-Christ et qui décrit en fait un épisode où Nebuchadnezzar était sur le haut, sur le toit des jardins suspendus et que dans le récit de cet Abidénus, il va être touché par un dieu, il va recevoir un message d'un dieu, il va déclarer qu'il y a un dieu au-dessus de tous les autres dieux et ensuite il disparaît de la circulation, en tout cas dans le récit d'Abidénus. Et donc ça, Ça semble quand même assez proche de ce qu'on voit dans le livre de Daniel. Et une autre chose qui est difficile à expliquer, c'est que il y a un trou dans les archives et dans tous les récits historiques qu'ont trouvé les archéologues, qu'ils estiment entre 7 et 8 ans, où il n'y a pas du tout de récits ou d'inscriptions qui fassent référence à des décisions ou à des édits en fait de rois. Et pour les rois de l'époque, c'est quelque chose de très anormal. Les archéologues ont un problème avec ça parce qu'ils disent, bon ben, il y a un trou, et normalement ces rois-là, ils aimaient bien qu'on grave ça tout partout, sur des colonnes, sur des trucs, pour qu'ils restent dans la postérité de la mémoire de leur empire qu'ils espéraient éternel, etc., etc. Et donc il y a vraiment un trou où ils voient rien, et où ils ont trouvé des choses qui font référence à une reine qui aurait mis des décisions et des... Alors ils disent que peut-être que c'était la reine qui avait assuré un intérim pendant... Mais il y a vraiment des choses que l'archéologie nous donne, qui semble s'accorder avec ce récit. Et comme on l'a dit, c'est quelque chose qui dans l'histoire arrive de temps en temps, des gens qui sont frappés par la folie quand ils essaient de se mettre au-dessus de Dieu, ou de se déclarer plus grand que Dieu, ou je sais pas si vous avez lu dans les actualités récentes, si vous lisez de temps en temps, ils essaient de faire des petits portraits de, par exemple, Kim Jong-il. Et enfin, on a l'impression que le mec, il est complètement barjot, quoi. Il fait mais n'importe quoi. Il est complètement à côté de la plaque. Il est l'illusion des grandeurs. Il y a vraiment, dans l'histoire, il y a des gens où certaines des choses que faisait Hitler dans la fin de la période où il était complètement dépravé, il y avait des trucs, mais vraiment des trucs dont on n'a pas envie d'entendre parler. Et vraiment, malgré toute sa sagesse aussi, et les connaissances ou la puissance que ces hommes pouvaient avoir dans l'histoire, il y a à maintes reprises des gens qui, d'un coup, sont frappés comme ça, de folie. Néron, certains des empereurs romains, ça fait penser aussi à Hérode, on a vu dans Actes, comment il est frappé par Dieu, lui il meurt, mais... quand il est en train de se glorifier un petit peu, il se pense un grand roi et Dieu l'achève. C'est aussi, il y a certains des hommes, il y a par exemple Nietzsche qui a déclaré, qui a écrit, on en a parlé dimanche, il a déclaré que Dieu était mort, il a écrit des livres où il essaie de raisonner philosophiquement sur l'existence ou non de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vraiment fini les 10 dernières années de sa vie complètement fou, complètement taré dans un asile de fous, quoi. C'était pas seulement... Enfin, c'est vraiment... Et certaines personnes, enfin, certains théologiens disent, voilà, enfin... Il y a un théologien anglais qui dit que c'est un peu un théologien, écrivain qui s'appelle G.K. Chesterton, qui fait un contraste entre les... qui dit que si on essaye d'expliquer le monde sans Dieu, c'est tellement vaste et immense, c'est l'explication du monde et de la réalité de l'univers sans Dieu. Si on y va vraiment jusqu'au bout, et si on le pousse en étant honnête et en le cherchant vraiment, qui ne peut amener qu'à une certaine folie, parce qu'il n'y a pas d'explication possible sans Dieu, sans une intervention divine. Quoi qu'il en soit, le roi est restauré à la fin de ce temps. Il est restauré au moment où il rend gloire à Dieu, où il élève Dieu au-dessus de lui-même et où il prie et où il crie à Dieu. Dieu ne fait pas qu'exister, mais en plus il règne, il dirige ce qui se passe. C'est lui qui élève et qui abaisse les rois. Dans l'histoire de l'homme, c'est intéressant aussi de se penser à combien de fois dans l'histoire humaine des rois chutent de manière brutale, ou des puissances, ou des royaumes qui se croient invincibles ou qui semblent solides et au-delà de tout possibilité d'effondrement, d'un coup s'effondre. Et il y a vraiment ce sentiment, quand on regarde l'histoire de l'homme, que ses apparences et ses envies de solidité et de grandeur sont que des apparences. Même à l'histoire récente, la Russie, l'URSS, qui on pensait qu'on allait rester avec une guerre froide pendant des décennies, et puis en un an ou deux, tout s'est écroulé, s'est frité, et il n'en est resté plus rien. Le nombre de royaumes, on va en regarder même dans la vie de Daniel ou dans l'histoire, les Romains, comment ils sont partis, les Grecs, vraiment la manière dont les royaumes peuvent chuter d'un jour à un autre doivent nous faire penser que c'est Dieu qui règne et qui dirige les autorités, même quand on n'en a pas forcément l'impression. Et donc on voit le roi qui tient un discours complètement changé et plutôt digne d'un homme là qui croit en Dieu seulement, qui est sauvé. C'est l'impression qu'on a dans ce qu'il dit ici. Et c'est important pour nous aussi de réfléchir et d'être conscient aussi de notre position vis-à-vis de Dieu. C'est quelque chose qu'on voit chez les hommes que Dieu utilise vraiment dans l'histoire, c'est qu'ils ont une compréhension correcte de qui ils sont vis-à-vis de Dieu et de qui Dieu est. Et c'est un petit peu, c'est ce que Dieu voulait montrer. Il voulait montrer la position des hommes par rapport à lui. Il y a des passages dans Jacques ou dans Proverbes qui parlent du fait que c'est Dieu qui abaisse, qui élève. Si on essaie de s'élever, si on veut pas s'humilier devant Dieu, il va nous abaisser. Vous pouvez regarder Jacques 4, 6 par exemple. Voilà. Des questions, des commentaires. Encore une fois, il y a des images juste en pour terminer qui peuvent nous faire encore une fois penser à la fin des temps et à la chronologie de la fin des temps, où Babylone représente en fait le système de valeurs du monde, où la folie du roi, c'est en quelque sorte l'annonce de la folie des nations dans leur rejet de Dieu, qui vont faire vraiment n'importe quoi dans leur manière de régner, de se conduire, que la chute du roi annonce le jugement de Jésus sur les nations, et que le retour du roi annonce le retour de certaines de ces nations qui vont participer au règne de 1000 ans avec Jésus. Encore une fois, on pourra regarder plus en détail ces parallèles avec Apocalypse, mais c'est intéressant. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer avec ça. En travail, je pensais que ce serait intéressant peut-être d'apprendre par cœur deux versets, 2 Pierre 3:9, dont on a parlé au début, si vous voulez, et un autre verset qu'on n'a pas lu, qui est Ecclésiaste 8:11, qui dit « Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des hommes se remplit du désir de faire le mal. » Ça va aussi avec cette idée de patience de Dieu vis-à-vis de nous pour qu'on change.